France Inter. Nicolas Demorand. Le 7-9.
Et nous sommes le mardi 2 juillet. Bonjour à tous et bienvenue sur France Inter. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, quand les orages violents succèdent à la canicule, gros dégâts dans les Alpes après le passage hier soir d'une tempête, 100 000 foyers privés d'électricité, trafic SNCF perturbé, toits arrachés. On fait le point dès le début du journal après les autres titres.
Un plan social très dur pour Conforama, 20% des effectifs pourraient être supprimés. La nouvelle journée de mobilisation des services d'urgence, la première session plénière pour le nouveau Parlement de Strasbourg avec des élus britanniques en sursis, et puis les premiers résultats d'une enquête inédite sur les enfants victimes des attentats de Nice il y a 3 ans.
Les invités d'Inter ce matin, bonjour Léa Salamé.
Bonjour.
7h50.
Militants écolos délogés violemment du pont de Sully par les forces de l'ordre. Signature du Mercosur, ratification du CETA. Les écologistes ne sont pas du tout contents ces derniers jours. Elle ne fait plus de politique, mais elle est toujours aussi engagée. La directrice générale d'Oxfam France, Cécile Duflo, sera notre invitée à 7h50.
À tout à l'heure. À 8h20, deux invités auxquels sera remis demain le Grand Prix franco-allemand des médias. Serge et Beate Klarsfeld, historiens qui ont œuvré toute leur vie pour la mémoire de la Shoah. Vos questions dès maintenant, le standard est ouvert. 01 45 24 7000.
France Inter.
De violents orages accompagnés de fortes rafales de vent jusqu'à 130 km/h et de chutes de grêle ont donc frappé hier soir la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pour les arbres arrachés et les toitures endommagées se comptent par dizaines. À Doussard, en Haute-Savoie, le toit de la salle des fêtes s'est détaché alors que 200 personnes assistaient à un concert de rock. Pas de blessés, mais une grosse frayeur que raconte Carole à Richard Vivian.
J'étais dans l'angle là-bas en train de vendre des t-shirts et la porte s'est violemment ouverte. Et ensuite, il y a eu des gros craquements au-dessus du toit. Vraiment impressionnant. Je me suis levée, j'ai pris peur. Et vraiment après, en face de moi, toute la toiture est partie, mais à l'opposé de la salle. Donc je pense que c'est... Puis après, on s'est réfugié dans l'entrée. Et sous les vitres du plafond, j'ai vu passer la toiture. Et mais les gens ont paniqué, les parents cherchaient, parce qu'il y avait énormément d'enfants. Alors les parents cherchaient les enfants. Ils appelaient leurs enfants, ils leur disaient de se mettre contre les murs. Madame le maire nous disait de nous mettre vraiment contre les murs et se protéger sous les tables, mais il n'y avait pas de table. Il y avait 2 tables, alors on était un petit peu... Voilà, on faisait ce qu'on pouvait pour se protéger, mais gros moment d'angoisse. Puis le bruit surtout, puis le vent qui sifflait dans la toiture. On n'a qu'à voir le résultat, hein.
Et toujours en Haute-Savoie, une personne a été sérieusement blessée par la chute d'un arbre sur un camping-car. À Annecy, les 43 passagers d'un bateau de croisière sur le lac ont dû être secourus. Des chutes d'arbres ont également entraîné l'arrêt à Lyon-Saint-Exupéry du TGV parti de Paris en début de soirée direction Grenoble. Les 182 passagers ont dû passer la nuit dans le train qui doit repartir ce matin. Des TER ont également été bloqués en Isère et à présent 49 000 foyers sont privés d'électricité au plus fort de la crise. 100 000 foyers ont été privés d'électricité en Savoie, Haute-Savoie et en Isère. Et ce matin, 5 départements restent en vigilance orange aux orages. L'Ardèche, le Gard, le Cantal, la Haute-Loire et la Lozère. L'alerte canicule, elle, est totalement levée.
Il est 7h03, Agnès. Les syndicats de Conforama dénoncent un plan de restructuration massif et violent.
1900 postes supprimés l'an prochain. 32 magasins fermés sur 196. Le détail du plan doit être présenté ce matin lors d'un CCE extraordinaire au siège du groupe à Logne, en Seine-et-Marne, mais dès hier, Force ouvrière a révélé les grandes lignes de ce plan. Ariane Grissel.
Les syndicats s'attendaient à des suppressions de postes, mais pas autant. Plus de 20% des effectifs dans les magasins, au siège du groupe ou dans le service après-vente. Pour Pascal Jacquemin, représentant CFDT chez Conforama, les salariés payent aujourd'hui la mauvaise stratégie de l'entreprise.
Ouvrir des confos déco, par exemple, alors qu'ils avaient déjà essayé ça il y a une dizaine d'années et ça n'avait pas fonctionné. On a des résultats qui n'étaient pas terrible et on s'engage avec la Ligue 1 sur un peu moins de 30 millions pour que le nom de Conforama apparaisse sur la Ligue 1, alors que pendant ce temps-là, les conditions de travail se dégradent, il n'y a aucune avancée sociale à Conforama.
Parmi les fermetures annoncées, celles de magasins emblématiques, comme celui du Pont Neuf dans le centre de Paris. Ils coûtent cher par leur emplacement, mais sont aussi une vitrine aux yeux des syndicalistes. Les représentants du personnel se demandent si Stenhoff, le propriétaire sud-africain, veut vraiment sauver le commerce, ou s'il s'agit d'assainir les finances de Conforama pour ensuite revendre l'enseigne. Aziz Boucherit y est délégué CGT. CGT.
Est-ce qu'on n'est pas dans une spéculation financière ? La problématique, c'est le devenir des milliers de familles qui, pour certains, n'ont connu que Conforama.
Les syndicats s'attendent à voir les premières lettres de licenciement arriver chez les salariés concernés dès janvier prochain.
La nouvelle mobilisation des urgences, le mouvement qui est démarré mi-avril à Paris, touche aujourd'hui 153 services. Les syndicats ont noté des avancées en termes de recrutement et de primes, mais cela reste insuffisant, d'où une nouvelle manifestation à l'appel de la CGT, Sud et FO. Rassemblement en fin de matinée devant le ministère des Finances avant un défilé en direction du ministère de la Santé où une délégation devrait être reçue. Un premier bilan des signatures demandant un référendum d'initiative partagée sur le projet de privatisation d'Aéroports de Paris. Moins de trois semaines après son lancement, 480 000 électeurs ont apporté leur soutien à cette procédure, soit un peu plus de 10% du nombre de signatures exigées pour que le référendum ait lieu. Les parlementaires de tous bords qui soutiennent ce RIP ont-ils des raisons d'être optimistes ? Élément de réponse avec François Rosy.
Le cap des 10% est franchi, mais le plus dur reste à faire. Pour le député LR Gilles Carrez, c'est un bon chiffre, mais nous sommes encore loin du compte, ajoute-t-il. D'autant plus que les citoyens les plus opposés à la privatisation d'ADP ont d'ores et déjà signé. Reste à convaincre les autres, pas simple avant l'été. Il sera donc important de garder le rythme pour le député insoumis Éric Coquerel.
Ça va dépendre, à mon avis, des forces militantes des uns et des autres. Et puis surtout aussi du rythme, la dynamique qui appelle la dynamique. Si on est à un peu plus d'un million de signatures à l'automne, je pense que ça donnera encore plus aux gens de se dire on peut y arriver, allons-y.
Car actuellement, ce sont en moyenne 26 000 personnes qui pétitionnent tous les jours, un rythme élevé quand on sait qu'il en faudrait quotidiennement 17 000 pour atteindre l'objectif en mars prochain. Le risque, c'est l'essoufflement, avec une campagne qui démarre tout doucement, à l'exception d'un meeting transpartisan à Saint-Denis le 19 juin dernier, organisé par le député communiste Stéphane Peu.
L'essentiel des meeting autour de la privatisation d'Aéroports de Paris, ce programme pour septembre, octobre. On n'est pas dans un sprint, on est dans un marathon et le début est très prometteur.
Avant de démarrer pour de bon leur campagne de terrain à la rentrée, les opposants à la privatisation d'ADP espèrent que les derniers bugs sur le site internet seront bientôt réglés. Ils ont sollicité pour cela une nouvelle réunion cette semaine avec le ministère de l'Intérieur.
France Inter, il est 7h07 et c'est la rentrée à Strasbourg.
Première séance plénière pour les 751 élus après les élections de mai et parmi eux 73 députés britanniques censés siéger jusqu'au 31 octobre prochain, date prévue pour le Brexit. Élus, mais pas sûrs de rester. C'est donc la situation dans laquelle se trouve notamment Seb Dance, député travailliste qu'Antoine Gignoux a rencontré à Londres.
Il a décidé de faire comme si, Seb Dance, comme si le Royaume-Uni n'allait pas sortir de l'Union Européenne, comme s'il n'y avait jamais eu de Brexit, comme s'il était un élu pas différent des autres. Si on s'excuse d'être là, au Parlement européen, dit-il, si on explique qu'on siège seulement pour quelques semaines, soit on va devenir dingue, soit personne parmi nos collègues ne nous respectera. Alors on n'a pas le choix, on fait comme si on était là pour la totalité du mandat. Difficile pourtant d'oublier la sortie de l'Union européenne. Seb Dance siège avec les socialistes européens, mais il a face à lui des collègues britanniques pro-Brexit plus déterminés que jamais. Ils font beaucoup de bruit, ils se plaignent de ceci ou cela, dit-il. Le bon côté des choses, c'est que Nigel Farage, le chef de file des eurosceptiques, n'a pas réussi à créer de groupe, ce qui veut dire qu'il n'aura pas son temps de parole habituel. Et la parole politique, c'est justement l'un des sujets dont les députés vont débattre pour tenter d'éviter les campagnes de désinformation, comme celle qui a permis pendant des mois à Boris Johnson et Nigel Farage d'expliquer aux Britanniques que le Brexit allait leur faire économiser 380 millions d'euros par semaine. Londres, Antoine Gignoux, France Inter.
Et puis, nouvelle séance de négociation à Bruxelles aujourd'hui. Les 28 chefs d'État et de gouvernement se retrouvent à 11h pour tenter de trouver un accord sur les nominations aux postes clés de l'Union après l'échec des discussions hier. L'Iran joue avec le feu, a déclaré hier soir Donald Trump qui s'est entretenu par téléphone avec Emmanuel Macron. Un peu plus tôt dans la journée, l'Iran avait annoncé avoir dépassé la quantité d'uranium enrichi autorisée par l'accord de 2015. Les États-Unis entendent poursuivre leur campagne de pression maximale sur l'Iran. Les États-Unis qui envisagent également des taxes punitives sur les fromages et les whiskies en provenance d'Europe, en rétorsion à ce qu'ils estiment être des subventions abusives de l'Union européenne aux constructeurs aériens. 90 produits seraient concernés, dont le bleu, le gouda et les whiskies irlandais. Retour en France avec cette étude inédite sur les séquelles psychologiques des enfants qui étaient sur la promenade des Anglais lors des attentats de Nice il y a presque 3 ans. Les premiers résultats ont été présentés hier par le Centre d'évaluation pédiatrique et psychotraumatisme qui va suivre donc plus de 200 enfants jusqu'à l'âge de 25 ans. Les premiers enseignements donc avec Laurent Vareille.
L'étude a porté sur deux groupes d'enfants, un de moins de 7 ans et l'autre sur des 7-12 ans. Premier enseignement, les données de l'étude ne divergent pas entre les deux catégories d'âge. C'est ainsi qu'il y a un quart des enfants qui ont digéré l'attentat, la moitié est moyennement touchée et a quelques séquelles post-traumatiques, et puis le dernier quart est lui encore très traumatisé avec de nombreuses pathologies. Florence Askenazi, professeure en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, est en charge de l'étude.
Des images ou des bruits, l'évitement, c'est-à-dire l'incapacité de revenir sur les lieux, c'est-à-dire la peur permanente que quelque chose se reproduise, des difficultés d'organisation de la pensée, de concentration, enfin toute une déclinaison de difficultés, et des difficultés neurovégétatives, c'est-à-dire que lorsque vous êtes confronté à quelque chose qui pourrait vous rappeler l'événement, par exemple un feu d'artifice, vous allez avoir une réaction neurovégétative, avec des sudations, le cœur qui bat très fort.
En tout, sur un groupe composé de 184 enfants, 60% présentent donc au moins un trouble. L'étude, bien sûr, détaille tous ces chiffres, ces pathologies, les répertories, les classes, avec l'idée de pouvoir très vite s'en servir. C'est là l'originalité de cette recherche.
Reportage de Laurent Vareille. Les élèves de terminale auront-ils les résultats du bac le 5 juillet comme prévu? Oui, affirme le ministère de l'Éducation nationale, mais certains enseignants font de la rétention de notes pour protester contre la réforme du bac. 100 000 copies seraient concernées. Nous y reviendrons dans le journal de 7h30. Et puis la fessée interdite pour de bon. Le Sénat doit voter aujourd'hui l'interdiction des violences éducatives ordinaires, comprenez gifles et autres fessées sur les enfants. 40 ans après la Suède, la France devient donc le 55e pays à bannir ces violences. La première demi-finale de la Coupe du Monde féminine de foot, c'est donc ce soir à Lyon, Angleterre-États-Unis. Coup d'envoi de la rencontre à 21h. Et puis c'est officiel, Adrien Rabiot a trouvé un point de chute de l'autre côté des Alpes. Le joueur placardisé au PSG depuis le début de l'année sera présenté en fin de matinée à la Juventus de Turin.
Et pour finir, Agnès, il n'y a pas que Netflix pour les séries.
France Télévisions a présenté hier ses futures séries à l'ouverture du festival Série de Fontainebleau, où la création européenne est à l'honneur, Alexandra Akoun.
2020 sous le signe d'abord de l'amour sur France Télévisions avec une belle histoire. 8 fois 52 minutes écrite par Frédéric Rivine, auteur d'Un village français, une histoire de couple en quête de bonheur conjugal qui débute en altitude.
Qu'est-ce qui se passe?
Il parle de roche friable dans le topo de la voix. T'as regardé?
Mais évidemment que j'ai regardé.
Anne Holmes est la directrice de la fiction française à France Télévisions.
Quels sont les rapports amoureux aujourd'hui et quel est le couple aujourd'hui? Quel est le rapport aux enfants, le rapport au monde? On voulait vraiment creuser dans cette veine-là pour être toujours le reflet du monde contemporain. C'est aussi notre mission de prendre les gens par la main et de les amener dans des univers particuliers.
Comme celui du voyage dans le temps avec Romance, entre le Paris d'aujourd'hui et le Biarritz des années 60. Le tournage vient juste de s'achever, mais les premières images laissent entrevoir une esthétique très léchée, la patte d'Hervé Admar, qui on doit déjà Pigalle la nuit et Les Témoins, inspiré cette fois-ci par une histoire vraie.
Un photographe amateur aux États-Unis qui a acheté dans une brocante un appareil photo, et dans cet appareil photo, qui datait des années 50-60, il y avait une pellicule qui n'était pas encore développée, il l'a développée, et sur cette pellicule, il y avait une photo d'une femme très mystérieuse. Il a essayé de retrouver les traces de cette femme dont il est un peu tombé amoureux. Je suis parti de cette anecdote et j'ai inventé Romance.
À découvrir en 2020 également, Mirage, série d'espionnage avec Marie-Josée Croze, coproduite avec l'Allemagne et le Canada. Le tournage n'est pas encore terminé. À Série à Fontainebleau, Alexandra Akoun, France Inter.
Et selon une étude publiée hier par le CSA, 9 des séries préférées des Français sont made in France.
Merci Agnès Soubiran.